Il est 16h sur France Culture. Michel Alberganti, bonjour.
Bonjour Mathieu Conquet, et à la semaine prochaine.
France Culture, il est 16h. Tout de suite, Science Publique, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Science Publique. Comme toujours, vos réactions sont vivement attendues sur le site de Science Publique au sujet de notre débat d'aujourd'hui. L'autonomie énergétique est-elle une utopie ? Quelques jours avant la signature par la France de l'accord de Paris, issu de la COP21 le 22 avril, Ségolène Royal a développé avant-hier la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, prévue par la loi de transition énergétique. Très flou sur le nucléaire, sujet complexe selon la ministre, la PPE fixe les objectifs de la France en matière d'énergie renouvelable qui doivent représenter 40% de la production française d'électricité en 2030 contre moins de 20% aujourd'hui, soit un doublement en 15 ans. Cette montée en puissance, réalisée surtout grâce à l'éolien et au solaire, modifierait profondément le paysage énergétique français. Le système actuel est très centralisé, l'hétérité des années 1980, et d'ailleurs le 8 avril 1946, c'est justement la date de la nationalisation d'EDF, comme notre invité, que je présenterai tout à l'heure, nous l'a rappelé. Et c'est donc 70 ans après cette date que le système actuel reste centralisé autour des centrales nucléaires qui assurent 75% de la production d'électricité en France. Les énergies renouvelables, elles, sont disséminées et les lieux de production se retrouvent sur l'ensemble du territoire. Ainsi, l'énergie électrique concerne de plus en plus les collectivités locales, désormais en mesure d'exploiter leurs propres ressources. Les régions, tout comme les communes, vont pouvoir prendre en charge la production d'électricité, une révolution qui fait planer le rêve d'une autonomie énergétique. En tant que productrice, une localité peut-elle couper le câble qui la relie aujourd'hui à EDF, acteur historique et unique ? Une telle autonomie relève-t-elle de l'utopie ou d'une transformation profonde de notre relation avec la production d'énergie ? Ce sont les questions dont nous allons débattre aujourd'hui dans Science Publique, en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, avec nos invités, Jérôme Biret, directeur général de la société Cadran et administrateur du syndicat des énergies renouvelables, le CER, et président de la commission des régions ultramarines. Michel Derdevé est secrétaire général et membre du directoire de RDF, filiale d'EDF, professeur à Sciences Po Paris et au Collège d'Europe de Bruges. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et rapports, notamment sur la politique européenne de l'énergie. Et Jean-Édouard Lemasson est directeur général de la Chambre d'agriculture de la Sarthe, maire de Juillet et premier vice-président de la communauté de communes du pays Belmontais à Beaumont-sur-Sarthe. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Science Publique, tout en bas de la page de l'émission sur franceculture.fr. Michel Derdevé, bonjour.
Bonjour.
Alors, du point de vue de RDF, donc, qui, comme je l'ai rappelé, est une filiale d'EDF, chargée de la gestion du réseau de distribution de l'électricité en France, donc à ne pas confondre avec RTE. Alors, que change pour vous ce développement des énergies renouvelables en termes de structure de cet immense réseau de distribution de l'électricité ?
Alors d'abord, je crois que pour faire un petit peu de pédagogie, l'histoire est déjà en marche. C'est-à-dire, quand on regarde 10 ans en arrière, il y a eu déjà en 10 ans un doublement des installations photovoltaïques et éoliennes dans notre pays, un doublement des capacités. Et deuxième élément qu'il faut poser d'entrée de jeu, c'est que 95% de ces énergies renouvelables, elles rentrent par le bas. Elles rentrent par le réseau de distribution, qui est en gros les nationales, les départementales du système électrique. Et donc ça, c'est un changement déjà fondamental, mais qui est derrière nous. C'est-à-dire qu'on avait effectivement, vous l'évoquiez Michel, en ouverture, un système centralisé, mais qui a su se moderniser, s'adapter pour permettre le démarrage dans notre pays, comme dans les autres pays européens d'ailleurs, de systèmes mixtes, dans lequel il y a effectivement des moyens qui relèvent d'une production centralisée, descendante, mais il y a aussi dans l'autre sens de plus en plus d'installations décentralisées. Un seul chiffre, 350 000 sites aujourd'hui raccordés au réseau de RDF, c'est essentiel. Ça veut dire que notre pays...
350 000
installations raccordées au réseau, qui devient dès lors non plus uniquement un réseau de distribution, mais un formidable outil de collecte. Donc vous voyez, bien avant l'accord de Paris, bien avant la loi de portant transition énergétique du 17 août 2015, le système s'est adapté et est devenu un système mixte.
Alors justement, juste à ce stade, pour préciser les choses, parce que ça va être un peu la structure, ça va influencer tout ce que nous allons dire après. Quand vous dites raccorder au réseau, ça veut dire que l'électricité qui est produite par une éolienne, dans la Sarthe par exemple, on va y revenir, où va cette électricité?
D'abord, il est très compliqué quand on parle d'un système électrique. Ici, dans ce studio, je ne sais pas quelle est la nature de l'électron qui nous éclaire ou qui alimente ces micros. Cet électron, il peut être nucléaire, il peut être éolien, il peut être thermique. Je ne connais pas sa nature. Je ne connais pas non plus son origine. Les systèmes électriques sont interconnectés. La Turquie, le Maghreb sont aujourd'hui interconnectés au grand réseau européen. Et donc, on a des systèmes d'échange en temps réel, à la vitesse de la lumière, qui font que la solidarité via les réseaux, les échanges en temps réel entre territoires, sont dans les fondamentaux de la gestion des systèmes électriques.
Ça veut dire que l'éolienne dont je parlais,
de la Sarthe,
elle est reliée au réseau général.
Elle servira peut-être à une consommation à la Sarthe à juillet, elle servira peut-être au département limitrophe, elle servira peut-être à une région ou à un pays au-delà.
Très bien, on va maintenant... C'est clair, on va y revenir évidemment très vite. Jérôme Biret, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez la société Cadran, c'est une PME de 200 personnes, à peu près 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est bien ça?
C'est exact.
Et vous êtes spécialisé dans la production d'électricité verte. Alors, deux mots sur votre activité.
Alors, très simplement, Cadran est un opérateur un peu global dans la production d'électricité d'origine renouvelable. C'est-à-dire que nous intervenons très en amont sur les études préliminaires, sur les autorisations nécessaires à notre métier. Nous intervenons sur la construction et sur l'exploitation des installations lorsqu'elles sont en service. Et nous faisons ces travaux sur plusieurs filières différentes, l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité et tout ce qui concerne la biomasse et l'utilisation du biogaz de déchets.
Alors vous avez combien à peu près de centrales que vous avez?
Aujourd'hui, on a 400 mégawatts en exploitation, c'est à peu près 200 centrales. Alors par rapport à ce que Michel vient de dire sur la partie production, on travaille nous sur des centrales de taille relativement importante, c'est-à-dire plutôt plusieurs centaines ou plusieurs mégawatts. Alors au regard d'une centrale nucléaire qui fait, elle, l'ordre du millier de mégawatts, ça reste petit. Ceci dit, on n'est pas dans la distribution domestique.
Très bien. Donc on va, évidemment, vous êtes un acteur de l'expérience dont Jean-Édouard Lemasson va nous parler. Jean-Édouard Lemasson, bonjour.
Bonjour Michel.
Donc vous représentez les collectivités locales dans ce débat qui se penche aujourd'hui sur cette question de la production d'électricité sur leur territoire. Et vous avez été nettement plus loin que de vous pencher sur le sujet puisque la commune dont vous êtes le maire, Juillet, dans la Sarthe, a décidé avec d'autres communes alentour d'investir dans l'éolien. Alors d'où est venu ce projet? Comment y avez-vous pensé?
Si je peux me permettre, je vais répondre par rapport déjà au circuit.
Oui.
Et donc la production de nos 6 éoliennes va dans un petit transformateur qui est au pied des 6 éoliennes. Et après va sur un transformateur qui est à 12 km de notre site.
Et c'est là qu'on perd sa trace.
Et après ça perd sa trace, voilà. Ça peut se retrouver, ça peut peut-être revenir sur Juillet, mais ça peut aussi partir sur tout le département de la Sarthe, voire sur le réseau national. Ça, actuellement, c'est possible comme ça.
Voilà, alors c'est quand même une inversion du réseau, de certaine façon, qui est intéressante.
Le réseau devient bidirectionnel.
Voilà, alors qu'il allait jusque-là que de EDF à la prise de courant.
Mais c'est vrai que derrière ça, même si on n'a pas un retour direct palpable, hein, les électrons ne sont pas visibles, on avait quand même derrière nous, dans notre idée, de se dire ça serait bien qu'on puisse contribuer d'abord aux protections de la planète et en même temps, à travers ça, se couvrir, si je peux dire comme ça, avec nos 6 éoliennes, d'avoir assez d'énergie. Si jamais il y avait, je sais pas, demain, une rupture du réseau, peut-être que dans 20 ou 30 ans, les techniques permettront de laisser l'électricité, la produite, au niveau local.
Donc c'était ça, déjà ça. C'est comme ça que vous l'avez dimensionné, le projet, un peu ou...
Alors, ça serait prétentieux de dire ça. On l'a aussi beaucoup travaillé avec les fermiers de Loué, hein, qui, eux, avait comme objectif que toute l'électricité utilisée, je dirais, de l'œuf ou de la poule jusqu'au four de la ménagère pour cuire le poulet, soit sous forme d'énergie renouvelable. Donc ils avaient, juste avant notre projet, dans les 3-4 années précédentes, installé dans 20% de leur élevage, hein, ça représente à peu près 1000 élevages, hein, les fermiers de Loué, des panneaux solaires sur des bâtiments agricoles. Et on avait calculé avec eux qu'il leur fallait la puissance de 4 éoliennes pour couvrir le reste de leurs besoins. ce qui permettait à cette entreprise-là, qui est à la fois agricole, mais qui a des prolongements, je dirais, dans l'agroalimentaire, hein, puisque les poulets se mangent aussi, ils ne sont pas seulement produits, ils se consomment les œufs aussi, d'avoir qu'une production d'énergie renouvelable à la base de l'électricité utilisée, y compris jusqu'au four de la ménagère.
C'est-à-dire que là, ils ont calculé leurs besoins et voilà. Donc l'ensemble des installations vertes les couvrent.
On comprend tout de suite que par rapport à ça, on ne peut pas mettre ça dans tous les fours de la ménagère, la production de ces éoliennes. Par contre, ils avaient un objectif qui était de produire en Sarthe, puisque leurs élevages sont situés en Sarthe, et sur un parc qui, je dirais, correspondait à une seule entité.
Alors ça, c'est le côté industriel, cette façon agricole pour le coup.
Voilà.
Et sur le côté, sur l'aspect plus habitants.
Pour nous élus, notre engagement, puisque en fin de compte, bien sûr, une collectivité de la taille de la mienne, je suis maire d'une commune qui fait 500 habitants. Et la communauté de communes fait 8500 habitants. On n'a bien sûr pas les moyens, on en reparlera certainement tout à l'heure, d'intervenir financièrement derrière ça. Mais par contre, notre engagement permet, on est des facilitateurs de projets. À partir du moment où on y croit, on est facilitateurs. On est aussi facilitateurs par rapport à notre population, à la fois celle qui est autour, mais ceux aussi qui accueillent les éoliennes. C'est pas toujours évident, même pour un agriculteur, de mettre à disposition une partie de son terrain, même s'il y a une rétribution pour accueillir des éoliennes. Est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça sera comme aujourd'hui? Il y a toujours cette inquiétude-là. Donc à travers ça, quelqu'un qui arrive de l'extérieur, ça peut des fois susciter des inquiétudes. Quand c'est des propres élus qu'on connaît, qu'on a précisément élus, en qui on a confiance, on a tendance à suivre plus facilement. En plus, nous, c'était un projet qui était à la fois industriel et agricole. Donc, on a eu, je dirais, par rapport à ça, une adhésion assez forte. Et qu'il faut qu'il tienne, parce que ça, un projet comme ça, ça dure 7 ans. Donc,
voilà. 7 ans pour arriver à...
Entre le moment où on a eu l'idée de se dire de s'associer à ce projet et d'apporter notre contribution aux énergies renouvelables produites en France, et puis je dirais notre contribution aussi à la planète, à notre petite échelle à nous, et puis la montée, les premières éoliennes qu'on tournait, il a fallu 7 ans.
Donc faut être persévérant et patient. 6 éoliennes donc installées sur cette communauté de communes.
Voilà.
17 millions d'euros d'investissement.
Qui sont partagés entre les fermiers de louer.
Non, c'est pas donc, un silence.
Jérôme Biré.
Oui, donc, Quadrant, c'est un peu le cœur de notre métier. Donc, financer de tels projets, c'est quelque chose d'assez habituel. Ce sont des financements qui reposent sur principalement deux piliers. D'une part, la dette. On va chercher de la dette qui est remboursée sur une quinzaine d'années.
Et d'autres. C'est un emprunt.
C'est un emprunt, absolument.
Malheureusement, vous consommez pas la dette de l'État.
Non, absolument pas. Non, au contraire. Donc, on emprunte et on va rembourser grâce à la vente d'électricité cet emprunt. Et d'autre part, on va mettre ce qu'on appelle des fonds propres. Et en l'occurrence, donc là, on a fait un montage Quadrant plus la coopérative des fermiers de louer plus un financement participatif.
Oui, voilà. On avait souhaité, nous aussi, au début de
Jean-Edouard Lemasson.
Oui, au début de notre projet, on avait souhaité aussi que pouvoir associer la population. Alors, pas seulement dans l'acceptabilité du projet, mais aussi en y mettant quelques sous. Et on a eu le plaisir de constater que nous avons eu 300 souscripteurs, tous locaux, hein, puisqu'on s'était interdit d'aller au-delà, parce que sinon, ça n'avait plus de signification. Donc, tous habitants de la communauté de communes et de nos communes.
300 sur 8500, ce qui est beaucoup.
Voilà, 300 personnes et ça représentait 1 200 000 euros de souscrits. Et on a travaillé là aussi en local avec une banque locale. Donc, vous voyez, on a associé tout le monde.
Michel Lardevé.
Non, mais je crois que le projet là qui vient d'être présenté est tout à fait typique de là aussi quelque chose qui est nouveau dans notre pays. C'est-à-dire que les projets, la politique énergétique ne vient plus uniquement de Paris, du centre, tel que ça a pu être le cas dans l'histoire contemporaine. Elle vient dans les territoires. D'ailleurs, la loi du 17 août 2015 parle de territoires à énergie positive. Elle vient de projets. Et quand il y a le nombre d'habitants que citait à l'instant Jean-Edouard Lemasson qui s'associe à un projet, c'est une condition de réussite. Ça veut dire que je suppose que la localisation des éoliennes a été d'autant mieux partagée qu'il y avait ce travail de réflexion, d'engagement, y compris sur ses propres deniers de chaque citoyen. Ça, c'est un changement qui peut nous rendre, nous Français, vous savez, on est souvent déclinistes. Hein. Je pense qu'on peut être optimiste sur le fait que dans les territoires, ça bouge. Et c'est un changement qui est quand même important par rapport, disons, aux 50, 60 dernières années.
Jean-Édouard Lemasson, sur cette question de convaincre les habitants, les paysans aussi, les agriculteurs, c'est-à-dire les éoliennes sont en plein champ, donc c'est un problème d'intégration à la fois sur le terrain, mais dans le paysage.
Voilà, alors l'intégration, je dirais, agricole, c'est pas très compliqué. Une éolienne, ça prend moins de place qu'un terrain avec une maison individuelle, quasiment. Hein. 1500 mètres carrés, donc si je reprends les...
Ça fait plus de bruit, sauf si voilà. les habitants de la maison sont un peu bruyants. Quoi.
Voilà, mais autrement, c'est vrai que ça prend pas énormément de place. Par contre, dans le paysage, ça ne se cache pas. Donc, il y a aussi toute une étude d'impact qui est faite, hein, avec tous les services de l'État, toutes les administrations qui peuvent être concernées par le projet. On a fait aussi des réunions publiques. C'est vrai que peut-être que le projet de souscription fait aussi que les gens s'y intéressent plus. Il y a peut-être plus une... C'est un peu aussi leur projet. Et moi, je veux un témoignage, parce que c'est vrai que sur l'éolien, il y a souvent beaucoup de détracteurs. Moi, j'ai jamais été aussi bien élu que les dernières élections de 2014. Ça faisait 3 mois que les éoliennes tournaient. Donc, je pense que avant d'avoir des idées de très très loin,
oui, c'est
la population
sondage.
Locale, voilà, c'est un sondage grandeur nature, on va dire.
Alors, ces éoliennes, ce sont des éoliennes assez volumineuses. Jérôme Bignier, c'est pas des...
Oui, alors ce sont des éoliennes typiques de ce que l'on peut installer en Europe aujourd'hui, des éoliennes de l'ordre de 2 mégawatts unitaires. C'est des machines qui sont à une centaine de mètres de hauteur, qui font une centaine de mètres de diamètre. C'est vrai que ce sont des ouvrages importants. Ceci étant, je défie quiconque de faire une différence entre une éolienne de 50 mètres de diamètre et de 150 mètres de diamètre à 3 ou 4 kilomètres. Hein. Donc on a une perception dans les paysages qui dépend beaucoup plus de l'aménagement des éoliennes, de l'environnement, du relief, de tout ce qu'on peut trouver dans nos campagnes que de la taille de l'éolienne elle-même. Ceci dit, pour atteindre des objectifs économiques qui sont quand même de plus en plus tendus, puisqu'on nous demande, et on le fait, de baisser le coût de ces énergies, on a une tendance naturelle à augmenter la taille des machines. Et aujourd'hui, on en dira peut-être un mot, mais sur l'offshore, on construit des machines qui font jusqu'à 8 mégawatts, c'est-à-dire 4 fois plus puissantes que celles qui sont installées à Loué, aux fermes de Loué.
On reproche souvent aux éoliennes de faire du bruit. Est-ce que c'est une question qui s'est posée à Loué?
Alors, c'était effectivement quelque chose qu'on nous reproche très souvent. Ma première réponse, c'est aller au pied d'une éolienne et écouter là. Je connais beaucoup de gens qui parlent du bruit d'une éolienne sans jamais avoir entendu. Aujourd'hui, on a des machines, premièrement, qui respectent toute la réglementation, les normes, et c'est bon, de ce point de vue-là, ce n'est pas un sujet. Et d'autre part, des machines qui sont devenues extrêmement silencieuses. Et en plus, on a des règles d'installation à plus de 500 mètres des habitations. Enfin bon, il y a quand même un maximum de précautions, je dirais, en France aujourd'hui, ce qui rend les projets si longs. Hein.
Alors 500 mètres, ça a été discuté il n'y a pas longtemps. On a parlé de 1000 mètres, d'un kilomètre de distance, comme en Allemagne. Alors on s'est rendu compte brutalement d'un seul coup que les règles allemandes n'étaient pas les mêmes que les françaises. On peut s'interroger d'ailleurs sur la raison. En France, il semblerait qu'il y ait de la place. Peut-être alors, passer de 500 mètres à 1 kilomètre, c'est pas non plus
Les analyses qui ont été faites sont très simples. Ça tue tout éolien en France. Mais,
ah bon, à ce point-là
Oui, pratiquement partout. La France a une somme de contraintes très très importante. Et donc bon, il faut les prendre en compte, mais plus on en rajoute, moins on fait de projets.
L'Allemagne
n'est pas à 1000 mètres. Non, l'Allemagne n'est pas à 1000 mètres, du tout. Bon, il y a eu un certain nombre de comparaisons en Europe qui montrent que la France a des règles qui sont assez standards et il n'y a pas véritablement de raison de les changer.
Jean-Édouard Lemasson, sur cette question du bruit, est-ce qu'elle a été abordée et comment?
Il y a des études, comme le disait Jérôme Biré, qui sont faites avant le montage, y compris après aussi. Il y a eu des vérifications qui ont été faites. On est dans les normes réglementaires, ça irait sans problème. La maison la plus proche est à peu près à 600 mètres. Hein, c'est la plus proche. Les quelques maisons qu'il y a à proximité sont entre 600 mètres et 1 kilomètre. Et on n'a pas personne depuis 3 ans qui ont posé problème. On a eu de la chance aussi sur le... Et j'en veux... Si je reste sur le bruit avant d'aller sur les émissions de télé, qui est une autre chose qui est opposée aux éoliennes, si je reste sur le bruit, beaucoup de gens, on est le seul projet de la Sarthe qui aujourd'hui tourne depuis... Après, ça va faire 2 ans et demi maintenant. Donc je fais énormément de visites avec les écoles, avec tous les gens qui sont intéressés, parce que comme c'est le seul, on vient souvent nous voir. Et effectivement, au pied des éoliennes, les gens sont toujours très très surpris. On tient des conversations presque comme on a aujourd'hui là.
Donc, pendant qu'elle tourne.
Et quand il y a beaucoup de vent, en ce cas-là, c'est plus l'éolienne qu'on entend, c'est tout l'environnement tout autour qu'on entend. Voilà.
France Culture, Science Publique, Michel Alberganti.
Nous débattons aujourd'hui autour de la question « L'autonomie énergétique est-elle une utopie ?» avec nos invités Jérôme Biret, directeur général de la société Cadran, Michel Derdevet, secrétaire général de RDF, filiale d'EDF, et Jean-Édouard Lemasson, directeur général de la Chambre d'agriculture de la Sarthe et maire de Juillet. Alors je voulais... D'abord on va terminer sur les nuisances, entre guillemets, des éoliennes. Vous alliez parler des émissions de télévision.
Voilà. Oui, c'est quelque chose qui est souvent opposé par les gens qui n'aiment pas l'éolien ou qui ne veulent pas d'éolien à côté de chez eux. Mais je pense que par rapport à n'importe quelle énergie, on n'en veut pas à côté de chez soi par définition. Donc c'est souvent compliqué. On a eu la chance, nous, parce que ça a été souvent dit, ceux qui développent les éoliennes apportent des solutions techniques. Et on a eu la chance, nous, dans aucun de nos trois villages, ceux qui sont les plus proches de la communauté de communes au pied des éoliennes, on n'a pas eu aucun problème avec les émissions de télé. Bon, c'est vrai qu'aussi...
Pas de brouillage.
Il n'y a pas de brouillage. Bon, on est moins dans le hertzien, certainement, qu'il y a 25-30 ans, mais même sur ceux qui seraient qu'en hertzien, on a eu personne qui est venu dans les mairies se plaindre qu'il ne voyait plus sa télé.
Voilà, on n'a pas précisé au départ que ce projet est terminé depuis 3 ans et donc en service depuis 2013.
Décembre 2013.
La fin 2013, voilà. Oui. Michel Derdevet, quand vous voyez une expérience de ce type, quelle est votre réaction, votre sentiment et comment pensez-vous que ça puisse préfigurer quelque chose, une évolution plus profonde que des expériences isolées et éparpillées sur le territoire? Quelque chose qui est en train de démarrer ou bien qui va rester marginal de votre point de vue?
Non, je pense que c'est pas une expérience marginale puisque on voit un peu partout en Europe des projets de ce type se réaliser et on voit de plus en plus de bottom-up, pour employer un langage un peu, c'est-à-dire que, encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure, le local, la dimension locale, les projets locaux fleurissent partout en Europe. Il y a un élément quand même à mettre dans le paysage qui est les grandes tendances d'évolution de la consommation électrique à horizon des 10-15 prochaines années. On voit un phénomène partout dans le monde qui est la métropolisation, c'est-à-dire que le fait urbain va être extrêmement dimensionnel, la consommation de nos concitoyens va être extrêmement forte dans les grandes villes qui sont en train de se constituer, notamment en France. Puis un deuxième phénomène, c'est que les lieux de production des renouvelables, ils seront eux plutôt en milieu rural quand il y a de l'espace, quand il y a la possibilité de déployer. Et donc, comment on gère cet équilibre? On voit bien qu'il faudra des infrastructures, il faudra des réseaux. C'est-à-dire que si la ville de Paris a des besoins d'électricité de plus 3000 MW, l'équivalent de 3 centrales nucléaires à horizon 2030, ou bien que c'est des départements, peut-être, comme la Sarthe, la Somme, l'Oise, le Cantal, qui seront des départements de plus en plus producteurs. Je vous ai amené, Michel, un chiffre aujourd'hui. Un département qui est dans la belle région de Cadran, hein, qui est l'Aveyron.
Alors, on n'a pas précisé.
Produit 74 mégawatts d'électricité, à peu près. Et un département de la région parisienne, lui, est à hauteur de 7 mégawatts. Donc, il y a un rapport de 1 à 10, hein, un département de la périphérie parisienne et un département comme l'Aveyron. Et on voit bien qu'il faut penser à notre pays de manière prospective si on ne veut pas avoir une fracture énergétique entre ces différents territoires, consommateurs, producteurs. Et donc ça veut dire que le développement de ce nouveau modèle qu'on voit émerger supposera d'associer les infrastructures dès à présent dans une vision un petit peu programmatique.
Alors il y a les infrastructures, mais il ne faut pas se cacher qu'il y a un problème de chiffres derrière tout ça. Aujourd'hui, la répartition est simple, mémorisée, hein, 75% d'électricité nucléaire, 20% de renouvelables, dont à peu près plus de la moitié est hydraulique, et non pas solaire ou éolien, et 5% à peu près d'énergie fossile, c'est-à-dire pétrole et gaz. Si on augmente l'une de ces proportions, c'est-à-dire si on passe de 20% à 40% comme Ségolène Royal le prévoit, il arrive un moment où il va falloir qu'on réduise la part du nucléaire. Ça paraît absolument mathématique. Comment vous voyez ça de votre point de vue, cette énergie montante en gros, mais montante pas des centrales mais des endroits où on produit de l'électricité verte, comment allez-vous l'intégrer dans le réseau sans toucher au nucléaire, puisque on a un peu l'impression que c'est ce que EDF souhaite?
Alors, d'abord, une distinction, c'est-à-dire que RDF achemine les électrons, non pas uniquement du producteur EDF, mais aussi de tous les acteurs producteurs par ailleurs. C'est-à-dire que le réseau est neutre, non discriminant, et doit permettre le transit comme une société d'autoroute. Et donc, c'est un point important. Trop souvent en France, on oppose le nucléaire au renouvelable. Ce qui doit primer dans le discours énergétique des uns et des autres, c'est la sortie des fossiles. la sortie des énergies du monde d'hier où on allait piocher. Et donc ça veut dire, ne n'opposons pas dans un pays comme la France qui a déjà un bilan carbone formidable à travers le fait d'avoir additionné, vous l'avez évoqué, de l'hydraulique, du nucléaire et aujourd'hui des énergies renouvelables. Le vrai sujet au niveau européen, par exemple, c'est d'éviter que les Européens dépensent 1 milliard d'euros par jour pour acheter du pétrole, du gaz et du charbon. C'est un élément, ça, de dépendance, de perte d'autonomie.
On est bien d'accord, mais...
Et donc ça veut dire que dans notre pays, le modèle de demain, c'est complexe de manier les chiffres. Pourquoi ? Parce que va devenir la consommation de notre pays en horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans ?
Avec les économies d'énergie, elle pourrait baisser, en fait.
Avec les économies, elle va baisser. Et donc, on est... Mais partout, dans tous les pays européens, dans un système qui évolue avec beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'incertitudes, et dans lesquels l'exercice, effectivement, que vous citiez tout à l'heure, de programmation pluriannuelle, est un exercice extrêmement complexe, parce qu'il y a des variables qui ne sont peut-être pas aujourd'hui maîtrisables. Vous donnez, Michel, la réalité du système électrique de 2025-2030, je serais très présomptueux cet après-midi de m'avancer sur quelques valeurs.
J'ai l'impression que l'objectif de cette programmation pluriannuelle, c'est justement de faire se développer les énergies renouvelables en France, alors qu'aujourd'hui, elles ont plutôt tendance à rester, à avoir du mal à se développer et à être plutôt timides. Alors, qu'en pense, par exemple, Jérôme Bigret ?
La société Quadrant, comme tous les opérateurs dans ce monde, reconnaît d'une part que la loi de transition énergétique est un formidable instrument. On a un cadre aujourd'hui... On a des objectifs, on a des tentatives de positionnement, de définition du rôle des uns et des autres. Donc ça, c'est un premier socle. On a un deuxième socle dans nos métiers, qui est que il y a 20 ans, moi il y a 30 ans que je fais ce métier, même un peu plus de 30 ans, c'était balbutiant, on mettait en route des systèmes qui fonctionnaient plus ou moins bien, et ils coûtaient très cher. Aujourd'hui, on a... véritablement des technologies qui fonctionnent, qui sont fiables, qui sont industrialisées. Et c'est vrai, on a beaucoup parlé de l'éolien, mais on pourrait parler du solaire, on pourrait parler d'autres filières, et qui ont atteint un niveau de compétitivité qui n'est pas remis en cause. Aujourd'hui, sur l'ensemble de la planète, les gens qui raisonnent nouvel équipement raisonnent aussi énergie renouvelable. Je rappelle quand même que sur la planète, c'est 280 milliards de dollars investis l'année dernière. C'est la première source d'investissement dans le monde de l'énergie. Et c'est du renouvelable. Donc aujourd'hui, il y a même plus de débat. Aujourd'hui, le renouvelable, quand on s'appelle Quadrant, on est certain qu'on va gagner. Alors, en combien de temps, gagner quoi et pourquoi, on va où ? Ok, mais dans le contexte français et européen, on est dans un cadre qui est un peu différent puisque on a un siècle d'électricité derrière nous, ou même un peu plus. Donc il existe des choses, il existe du nucléaire, on l'a évoqué, bon, il y a une trajectoire qui est fixée sur le nucléaire. On verra si on la tient, si on la tient pas. Il y a des objectifs sur le renouvelable. Nous, on pense qu'on peut les tenir, mais c'est vrai qu'il faut accélérer.
Alors, on voit mal comment accélérer en ayant comme horizon un surplus d'électricité. C'est-à-dire que tout concourt pour aller dans cette direction, dans la mesure où on ne change rien au système qui est installé, Michel Lerdevé. Enfin, ou alors, les chiffres...
Ça dépend aussi quel projet on a pour le pays. Je vous donne un seul chiffre que nos auditeurs peuvent méditer. Entre 2000 et 2010, la France a perdu la moitié de sa consommation d'électricité dans l'industrie. Supposons que demain, nous ayons comme ambition dans notre beau pays de développer l'industrie, de réattirer des investisseurs, d'avoir de nouveaux segments qui se développent de marché, il faudra bien de l'électricité. Et vous voyez bien que donc parier sur le fait qu'il y a un schéma purement de décroissance aujourd'hui serait un mode de projection qui serait peut-être un petit peu limite. Donc ça veut dire qu'il faut voir la façon dont notre société se développe, avance, se construit et consomme. Dans les fameuses métropoles que j'ai vues tout à l'heure, il va y avoir de plus en plus de demandes extrêmement précises, des fonctionnalités avec plein de véhicules électriques. Et donc tout ça, il faudra bien quelque part l'envisager, ça va s'additionner. Et donc aujourd'hui, les hypothèses sont le système est plutôt dans une phase d'atterrissage. La croissance électrique est de 0,5% à peu près partout dans la plupart des pays européens, mais si la reprise arrive et si on a envie de créer des emplois, peut-être que la consommation électrique, à la faveur des mutations d'usage, à la faveur notamment du développement du véhicule propre, sera quelque chose qui va être extrêmement dimensionnant pour l'ensemble des économies européennes.
Et vous pensez que ça peut absorber le passage de 20% d'énergie
renouvelables aujourd'hui à 40% en 2030.
Tout à fait. Si vous avez un essor du véhicule électrique pour arriver à l'objectif de la loi qui est 7 millions de bornes de recharge en 2030, donc si on passe sur des seuils où le véhicule électrique n'est pas uniquement un véhicule pour les bobos, pour les urbains, mais peut arriver à juillet dans la Sarthe, ben on voit bien qu'on aura quelque chose qui va être consommateur.
Ça faudra nous prévenir le jour où qu'on aura fini les voitures électriques. La première borne électrique à juillet dans la Sarthe, Jean-Edouard Lemasson.
Ouais, Michel Derdevet disait, je vais lui faire une réponse moi aussi maintenant, moins locale mais beaucoup plus générale. Je sais pas moi aussi comment va évoluer le rapport entre les énergies renouvelables qu'on cherche bien sûr beaucoup à développer et puis peut-être la décroissance du nucléaire, parce qu'on ne pourra jamais, je pense, s'en passer dans les quelques années qui viennent, sinon on aurait du mal à maintenir notre puissance électrique en France. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'a... Je vais raisonner plutôt en tant que citoyen, là. En tant que maire, il y a toujours quelque chose qui me gêne dans la production d'électricité, c'est de brûler du gaz ou du pétrole. Et autant c'est certainement très bien, on va développer les voitures électriques. Je pense que c'est là aussi c'est une piste d'avenir, mais de continuer à brûler du pétrole ou du gaz pour faire de l'électricité
aujourd'hui. Hein,
à mes yeux, citoyen, je trouve que c'est 5% de trop. Je préfère à la place qu'on ait mis des énergies renouvelables un peu sur tout le territoire, parce que on nous oppose souvent qu'il n'y a pas du vent partout au même moment, il n'y a pas du soleil partout au même moment, mais si c'est réparti un peu plus large à l'échelle de la France, mais aussi de l'Europe, ça peut peut-être être compensé les endroits ou les journées où il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Mais c'est certainement mieux, je trouve, moi, ça me satisfait mieux tant que citoyen que de voir brûler du pétrole pour faire du courant, quoi, alors qu'il y a des tas d'autres manières de le faire.
Michel Derdevet, est-ce que ces 5% donc, qui restent de centrales au fioul ou au gaz, est-ce qu'elles ont une utilité en termes d'équilibrage et pour pallier, par exemple, l'intermittence des énergies renouvelables, ou bien est-ce qu'à terme, on peut s'en passer complètement? Est-ce que c'est envisageable, à votre avis?
Pour l'instant, c'est des moyens qui sont utiles, vous évoquiez tout à l'heure le fait que la consommation aujourd'hui est une consommation plutôt stagnante en Europe. Aujourd'hui, le problème de l'Europe n'est pas d'avoir une sous-production d'électricité. Chaque pays est plutôt dans une situation de surproduction. Par contre, la question, c'est les pics de consommation, les moments de l'année. L'hiver, alors c'est moins vrai avec le réchauffement climatique, mais l'été, on voit apparaître en France des phénomènes de pic de consommation l'été à 13h quand les climatiseurs fonctionnent, notamment dans le sud du pays. Et c'est un phénomène qui était existant en Espagne. Nos amis électriciens espagnols le gèrent depuis plusieurs années. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, ben, peut-être que comme c'est l'été, il y aura à 13h du photovoltaïque qui sera à disposition en Espagne ou en France, mais peut-être qu'aussi les moyens ne suffiront pas et qu'il y aura besoin de moyens de pointe. Donc là aussi, soyons pragmatiques, c'est tout un débat un peu technique pour ceux qui ont envie de se référer sur ce qu'on appelle les mécanismes de capacité, la façon dont on peut couvrir les besoins exceptionnels. Ça passe par sans doute deux méthodes, le fait que les producteurs aient sous la pédale une capacité supplémentaire pour dépanner lors de ces pointes, et aussi et surtout l'effacement. Le jour où vous pourrez ne pas consommer quand on vous le demandera, ben ça sera quelque chose qui sera valorisé, qui permettra de mieux gérer le système en cas de pic de consommation.
Donc on peut espérer se passer de ces 5% de production à l'aide d'énergie fossile en France.
Bien sûr.
Jérôme Bilré, comment vous voyez cet avenir dont on parle aujourd'hui? On a sous l'angle de l'autonomie, j'ai placé cette émission sous l'angle de l'autonomie, évidemment, c'est discutable. On voit qu'aujourd'hui on n'en est pas du tout là. Aujourd'hui, c'est ce qui est produit localement est renvoyé dans un réseau national et ensuite est réparti. Et éventuellement, on revient à la source, mais c'est pas absolument garanti. Et donc, comment vous voyez-vous est-ce que vous avez une vision sur l'évolution de ce système?
Je ne sais pas si c'est une vision, mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas imaginer que le renouvelable ne fera pas 100% d'électricité demain. J'en veux pour preuve un document qui a beaucoup fait parler dans la profession, le document de l'ADEME, qui a exploré un scénario 2050 100% renouvelable. Alors comment ça fonctionnera? Je pense effectivement que le réseau sera toujours là, parce que effectivement, des métropoles, des industries, on aura toujours besoin d'équilibrer le système. On n'a pas beaucoup parlé de la problématique européenne et de l'équilibre entre les différents pays. Je pense qu'il faut absolument miser sur un mix énergétique. Donc ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est la production des différentes sources d'énergie. On ne fera pas du 100% éolien ou du 100% solaire, ou que ce soit. Il faudra les différentes énergies, toutes les énergies à leur maximum. Et dans ces énergies, on a parlé un petit peu d'hydroélectricité. Je rappelle que l'hydroélectricité, c'est une énergie dite garantie. C'est-à-dire, vous appuyez sur le bouton, vous videz le barrage, vous produisez de l'électricité.
Sauf si le réchauffement climatique modifie les quantités d'eau.
Oui, mais à ce moment-là, vous allez me dire, demain, à Béziers, où Cadran est installé, ça sera le désert. Qu'est-ce que vous ferez? J'en sais rien.
Le réchauffement climatique a certainement une influence.
Il y a des modifications peut-être, mais elles seront peut-être positives. À ce moment-là, on pourra faire du solaire à Lille de manière très rentable et qu'on aura peut-être plus de vent dans certaines zones, moins dans d'autres. Bon, effectivement, on peut imaginer des évolutions. Néanmoins, toutes les énergies renouvelables ne sont pas des énergies dites flux, c'est-à-dire que l'on ne sait pas aujourd'hui stocker, enfin, on sait les stocker, on commence à savoir les stocker, mais disons qu'elles ont un caractère non garanti et variable. On a des énergies comme la biomasse, quand vous mettez du bois dans un poêle, vous avez une énergie garantie. Quand vous avez mis une bûche, ça chauffe. Et vous pouvez le stocker. On a parlé de l'hydroélectricité, on pourrait parler de tout ce qui est production de gaz, de méthanisation. Donc on a quand même des sources d'origine nature très différentes. Et c'est ça le mixte de demain. C'est comme ça qu'on se fera face aux besoins en électricité.
Michel Derdevet, quand vous voyez ce rapport de l'ADEME qui prévoit la possibilité, qui est un scénario un peu futuriste, mais qui va tout à fait dans le sens de ce que souhaite Jean-Édouard Lemasson, c'est-à-dire 100% d'énergie renouvelable en 2050, c'est un peu provocateur, d'ailleurs il y a eu des difficultés à sortir ce rapport. Comment vous réagissez-vous à cette perspective?
Non mais en tout cas ça pose le débat, c'est comme des économistes qui évoquent l'électricité à 0 €. Donc je veux dire...
Donc pour vous c'est totalement utopique.
On voit que ça donne une tendance, ça donne une perspective. Et après, il faudra voir comment matériellement c'est en place. Quand on regarde, moi je suis des questions énergétiques européennes depuis une trentaine d'années, il y a eu beaucoup de projections avec des engagements fermes, en disant en 2010 on sera à tel niveau et tout. Bon, voilà. Regardons un petit peu les objectifs 3x20 par exemple dans certains pays, l'Allemagne ne va pas être au rendez-vous.
3x20
c'était en 2007 le paquet énergie-climat, et c'était l'idée d'avoir en 2020 en Europe moins 20% d'émissions de CO2, 20% de renouvelables en moyenne, et d'avoir une amélioration de l'efficacité énergétique, de la maîtrise de l'énergie de 20% en voie d'amélioration. Aujourd'hui, on voit que par exemple sur le CO2, il y a de grands écarts selon les pays, notamment l'Allemagne, qui, paradoxalement, à la faveur de l'énergie verte, de la transition énergétique, pour des raisons purement économiques, a eu à la fois un développement des moyens renouvelables, mais aussi de la production charbon, et donc un bilan CO2 qui est pas formidable. Donc, vous voyez, entre ce qui est la projection, la construction politique de l'objectif et la réalité, souvent il y a des inconnus. En 3-4 ans en Allemagne, on a eu quelques surprises.
Jean-Édouard Lemasson.
Oui, si je peux me permettre de compléter ce que vient de dire Jérôme Biret, je vais prendre ma casquette professionnelle. C'est vrai que les méthaniseurs, aujourd'hui, dans le monde agricole, sont quelque chose aussi qui est en train de se développer. Alors, c'était très important en Allemagne jusqu'à aujourd'hui, mais même en France maintenant, on a de plus en plus dans des régions des agriculteurs, ou plutôt des groupes d'agriculteurs qui utilisent les déjections animales pour faire tourner le méthaniseur ou les déjections de céréales ou choses comme ça. Donc c'est aussi, je dirais, un mix énergétique qui s'élargit, quel que soit, c'est une autre partie de la biomasse, quoi.
Alors est-ce qu'il n'y a pas la révolution, en fait, avant même de parler d'autonomie ou d'indépendance, est-ce que la révolution, c'est pas la prise en charge par des acteurs nouveaux, qui sont les collectivités locales, qui sont éventuellement des individus, des habitants de ces villes, qui peuvent, ou des agriculteurs qui peuvent développer ce genre de technique, le biogaz. Est-ce que c'est pas ça le grand changement d'approche de l'énergie, Jérôme Biret, aujourd'hui?
Je pense qu'effectivement, dans les évolutions qu'on peut imaginer, on va voir arriver un monde très multipolaire électrique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais où il y aura de nombreux nouveaux opérateurs. Moi, j'aimerais faire un petit parallèle avec ce qu'on a connu ces 20 dernières années en téléphonie. Aujourd'hui, tout le monde ou presque a un smartphone. Ce smartphone, il n'existait pas il y a 10 ans et il était inimaginable il y a 20 ans de penser que dans la rue, on allait regarder une émission de télé. Aujourd'hui, ça fonctionne et il faut pas oublier que notre opérateur national d'il y a 20 ans a été fortement challengé. Il existe toujours, mais il y a d'autres opérateurs. Les technologies ont complètement évolué. Il y a eu des ruptures. On est passé d'un système filaire à des systèmes sans fil. Alors, je ne veux pas dire que tout est transposable dans l'énergie, mais il est probable que l'on voit des évolutions assez fortes dans l'énergie et une complexité croissante du monde de l'énergie.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
L'autonomie énergétique est-elle une utopie? C'est le sujet de notre débat avec nos invités. Jérôme Biret, directeur général de la société Cadran, Michel Derdevé, secrétaire général de RDF, filiale d'EDF, et Jean-Édouard Lemasson, directeur général de la Chambre d'agriculture de la Sarthe et maire de Juillet. Michel Derdevé voulait réagir.
Non, pour simplement souligner à quel point je partageais les propos de Jérôme Biret. En fait, on va passer d'un système à la fois, pour notre pays, national et local. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a, si on veut éviter que les territoires partent dans des schémas de développement économique très disparates, il y a un intérêt d'avoir des règles. Vous évoquiez tout à l'heure, Michel, la loi du 8 avril 1946. Quelques
c'est
années plus tard.
C'est vous qui me l'avez rappelé.
C'est vous qui, je vous l'ai soufflé, aux auditeurs. Quelques années plus tard, est adoptée dans notre pays une règle de péréquation. Ça veut dire que l'idée qu'il y a, c'est des équilibres entre les territoires. C'est-à-dire les endroits les mieux dotés vont pouvoir financer les départements les moins bien électrifiés. Cette règle, elle est moderne. Elle est adaptée aujourd'hui. Si on ne veut pas avoir demain une France qui parte en mille morceaux, on voit bien que c'est un sujet extrêmement fort. Et donc, il faut à la fois accompagner le développement des smart cities, des villes intelligentes, et tous les projets territoriaux locaux qui existent, et en même temps se poser la question des villes moyennes ou des petites villes qui, elles aussi, ont des projets énergétiques. Et le réseau est là pour accompagner. Le réseau est la formidable architecture entre le local, le départemental, le régional et l'européen. Pour mémoire, nous avons 46 interconnexions entre la France et nos voisins européens. Et par exemple, à certains moments de l'année écoulée, l'Allemagne a été dans une logique d'exporter son électricité vers la France. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des grands vents au nord de l'Allemagne et les éoliennes données à fond. Et ce système a permis à la France de bénéficier d'une électricité disponible et bon marché. Et à d'autres moments, les Allemands ont utilisé le nucléaire français qui était disponible par rapport à des besoins qu'ils ne pouvaient pas couvrir uniquement avec les renouvelables. Donc vous voyez, sortons de l'opposition factice. À la maille européenne, à la maille du dialogue franco-allemand, il y avait un sommet cette semaine entre le président de la République et Madame Merkel, les équilibres se font entre des énergies que souvent on a tendance à antagoniser.
Mais on les antagonise parce qu'on ne voit pas comment elles peuvent se développer tout en même temps. On ne voit pas comment on va créer de nouveaux EPR sans fermer de centrales nucléaires et comment on va développer les énergies renouvelables en France. C'est juste une question purement de mathématiques.
C'est une question qu'il faut corréler avec l'évolution de la consommation.
Qui peut être dans un sens ou dans
exactement.
Un autre.
Et donc ça veut dire que ça suppose, quelque part, un choix, une décision politique. La loi qui a été adoptée l'été dernier est une loi extrêmement claire. S'il y a une réflexion aujourd'hui engagée, vous évoquiez les annonces de la ministre de l'écologie mercredi. Donc tout ça, c'est des dossiers qui sont travaillés, mais on voit que les lignes de force existent, quelles que soient les lignes de force. Ça va être une diversification en France et un essor des ENR. Notre pays a décidé, je pense majoritairement, de garder le nucléaire parce que c'est une énergie compétitive qui fournit à l'heure qu'il est une électricité peu chère. Et donc, pourquoi se priver dans un pays qui est en crise d'un avantage de compétitivité, comme diraient les économistes? Donc voilà, et le mariage doit se faire, et avec beaucoup de pragmatisme dans la façon dont tout ça se combinera dans les années qui viennent.
Alors, la question du tarif, la question du prix de l'électricité est centrale, effectivement, dans les politiques qui peuvent être mises en œuvre. Et justement, les choses évoluent énormément, Jérôme Biret, en matière de renouvelables, c'est-à-dire le prix des installations baisse, et aujourd'hui il y a une véritable compétitivité au niveau financier, au niveau économique, entre le nucléaire et le renouvelable.
En tout cas, c'est ce qu'on observe effectivement. L'exemple le plus parlant sur la baisse des prix, c'est le photovoltaïque. Le prix du photovoltaïque a été divisé par 3, par 4, par 5 ces 5, 7, 10 dernières années. On a vraiment eu un effet spectaculaire, tout simplement lié à l'industrialisation, à l'augmentation des volumes. On n'a pas inventé des choses extraordinaires en photovoltaïque. Par contre, les volumes sont tels aujourd'hui qu'on est passé dans un vrai modèle industriel et où les productions sont les moins chères possibles, et ça continue. Et ça continue. Et ce qui est vrai en photovoltaïque est aussi partiellement vrai en éolien, même si on a une maturité de l'éolien probablement un peu différente. Et aujourd'hui,
Donnez-nous quelques chiffres
de repères. Coût moyen de nos énergies renouvelables, que ce soit l'éolien ou le solaire, on est entre 70, 80, 90 euros le mégawattheure pour des installations de taille significative sous nos latitudes. On observe dans certains pays des records, pays très ensoleillés, on trouve des installations à 50 euros le mégawattheure. Alors, c'est pas le prix marché qui était évoqué tout à l'heure, où on a aujourd'hui un prix marché qui est autour de 30, 35, 28, 38, on sait plus parce que ce prix marché, malheureusement, est un prix qui reflète effectivement un excédent de production. Il reflète pas la réalité des prix de production. Si on veut comparer les énergies renouvelables, faut les comparer à des investissements qu'on ferait aujourd'hui. L'exemple typique, c'est grand débat, les EPR en Grande-Bretagne, c'est sur 30, 40 ans des investissements à très longue durée. On sort un kilowattheure qui a plus de 100 euros, 110 euros, 120 euros, c'est-à-dire supérieur à ce que j'évoque. Donc, quelque part, est-ce que c'est le bon choix? Alors, on parle pas exactement du même type d'énergie ou de puissance garantie. On peut en débattre pendant 1000 ans. Mais on voit bien que le renouvelable est aujourd'hui compétitif. Et en plus, il est immédiatement disponible. C'est-à-dire, si vous me demandez 1000 mégawatts demain matin, je vous les installe.
Pas en une journée, mais en...
Non, mais en quelques mois.
En quelques mois.
Plus compliqué pour un EPR.
Michel, oui, apparemment ça prend un peu plus de temps. Michel Derdevet, c'est ça aussi qui a changé complètement l'équation. Jusqu'à présent, c'était facile de dire l'énergie renouvelable, ça coûte très très cher, l'État paye avec des coûts de rachat, ou l'État ou EDF d'ailleurs, paye avec des coûts de rachat imposés qui sont excessifs par rapport à ceux du nucléaire. Tout ça est en train de changer.
Tout ça est en train de changer. J'aimerais simplement souligner un point important qui est souvent oublié, c'est l'importance des investissements sur les réseaux. ERDF, nous mettons tous les ans 3 milliards d'euros sur la modernisation, l'amélioration du réseau. Et on a eu en 2015 un temps de coupure exceptionnel de 60 minutes, qui est un des plus bas chiffres obtenus en France dans les 10-15 dernières années. Mais j'y vois une très grande corrélation avec le fait qu'aujourd'hui, il y a une attention qui est portée sur la qualité des infrastructures électriques. C'est important, vous savez, des réseaux de qualité, ça attire les investisseurs. Au niveau mondial, c'est des paramètres qui sont regardés. Et donc un pays qui oublierait cette dimension importante de ces infrastructures, qui laisserait de côté les investissements, serait un pays qui se dégraderait. Donc il faut qu'on continue à avoir cet effort qui porte sur le réseau de transport, qui porte sur le réseau de distribution. Et c'est une partie de la facture du consommateur qu'il ignore souvent. Il a l'impression de payer globalement l'ensemble. Mais cette partie-là, elle est stratégique parce qu'une dégradation des investissements se ferait sentir à terme, à horizon, à moyen terme ou à long terme.
Et c'est pas ce qui s'est produit ces dernières années? Il n'y a pas eu une baisse des investissements dans ce domaine?
C'est exactement l'inverse, puisqu'ils ont doublé. Entre 2007 et 2015, les investissements sur les réseaux de distribution ont doublé pour atteindre le chiffre que j'évoquais, 3 milliards d'euros. Sachant qu'à ces 3 milliards d'euros, il faut que vous rajoutiez 800 millions d'euros que les collectivités locales mettent elles-mêmes, notamment sur le réseau basse tension, puisque je vous rappelle que le réseau de distribution n'appartient pas ni à EDF ni à ERDF, il appartient aux collectivités locales, aux syndicats d'électricité, et qui font eux-mêmes un effort conséquent pour améliorer la qualité des réseaux.
Alors ce qui est intéressant aussi de noter, c'est, Jérôme Biret, que ces éoliennes que vous venez d'installer, vous avez installé il y a 3 ans plutôt, dans la Sarthe, c'est quelque chose qui est rentable économiquement. Vous restez le propriétaire de ces éoliennes en partie, ou comment ça se passe en termes d'exploitation maintenant?
Alors le propriétaire est la société Eolloué, donc il y a plusieurs actionnaires, donc nous sommes plusieurs propriétaires. Et effectivement, c'est la société dite de projet qui va être propriétaire à moyen et long terme de cette installation. Et dans les éléments économiques très très importants des énergies renouvelables, c'est qu'aujourd'hui je vous dis que ça vaut, l'énergie coûte 80 euros le mégawattheure, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on sera toujours au même prix. C'est-à-dire qu'on n'a pas de dérive attendue, en particulier de dérive à la hausse, sur ces énergies. Et ça, c'est fondamental. En particulier, je voudrais faire juste une petite parenthèse, puisque quand on parle économie et qu'on est en France, on peut aussi parler un peu de l'outre-mer. Comme je suis président de la commission des régions ultramarines au CER, le contexte économique en outre-mer est assez différent, puisque on a une énergie produite à partir du fossile, du fioul, du charbon, mais en petite puissance, sur des petits territoires qui sont souvent des îles. Et à ce moment-là, on a des coûts de production beaucoup plus élevés. On a des coûts de production des ailes qui sont de l'ordre de 200-250 euros le mégawattheure. Donc dans ces conditions-là, les énergies renouvelables sont absolument rentables. Et c'est pour ça que l'objectif, c'est l'autonomie énergétique, non pas en 2050, mais en 2030.
Et ça, ça veut dire, quand vous parlez de rentabilité, ça veut dire en gros que le coût de production est inférieur à ce que au prix de vente. C'est aussi simple que ça, j'imagine.
C'est à peu près ça.
Donc ça veut dire que là, quand vous parlez de 80 euros le mégawattheure, ça c'est le prix de rachat par EDF.
C'est le prix, puisqu'on est aujourd'hui dans un système avec un tarif réglementé.
Voilà.
Donc c'est effectivement un prix normé par arrêté, qui est en train d'évoluer, puisqu'on va vers des systèmes où on va être obligé de vendre sur le marché. Donc c'est un prix marché plus une prime qui permettra, parce que le prix marché aujourd'hui ne permet pas la rentabilité de ces équipements, ça c'est une certitude. Donc prix marché plus une prime qui permettra d'investir.
Pour vous, ça représente une différence de combien par rapport à votre coût de production, justement, et quelle est la rentabilité? Alors,
on raisonne pas en rentabilité, une différence de prix de vente par rapport à un prix d'achat ou un prix de production. On raisonne, nous, sur des rentabilités capitaux investis. Et ce sont des projets sur lesquels on a des rentabilités de l'ordre de 8%, c'est-à-dire en rentabilité industriels qui sont tout à fait raisonnables. Malheureusement pour nous, certains investisseurs préféraient gagner beaucoup plus.
Ça veut dire un amortissement en combien d'années?
On est sur... Alors, les dettes, ce que je vous disais, se remboursent sur une quinzaine d'années, voire en photovoltaïque, 18-19 ans. Donc, on est quand même sur des durées très très longues. Mais aujourd'hui, les banquiers nous suivent, et parce qu'ils ont confiance dans ces technologies-là. Et les fonds propres se remboursent à peu près sur la même période.
Alors, vous nous avez parlé des réseaux, Michel Lerdevé, mais vous vouliez intervenir, Jean-Édouard Lemaitre?
Oui, je voulais dire, par rapport aux durées des travaux, c'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure qu'un dossier éolien, c'était 7 ans, entre le moment où on commence à s'y intéresser et le moment où les éoliennes tournent. Et la partie travaux, c'était 7 mois. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est aujourd'hui...
Le plus long, c'est avant, quoi.
C'est la préparation. Calculer, répondre à toutes les contraintes et puis à l'optimum économique.
Mais les études, le préalable.
Et ce que je voulais dire aussi sur la partie financière, je vais raisonner à l'échelle de mon village ou de la communauté de communes. Bon, c'est vrai que... Quand Jérôme Biret parle de la rentabilité, c'est aussi après avoir, je dirais, réglé ces taxes qui nous retombent, que ce soit au conseil départemental, à la communauté de communes ou à la commune. Et si je prends mon petit village de 500 habitants, on a la chance d'avoir un logis du 15e siècle qui était en train de tomber en décrépitude et avec une tour gallo-romaine à côté. Et donc, grâce pour partie aux éoliennes, on va pouvoir financer la restauration et le transformer en mairie. Donc je dirais qu'on a pu associer du patrimoine, la conservation et la restauration du patrimoine à un projet plutôt moderne qui est les éoliennes. Et je vois souvent, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est quand je reçois des enfants, je dirais nos problèmes d'adultes avec les éoliennes. Alors les enfants, pour eux, c'est formidable. C'est les grands moulins à vent, certainement, de la génération de nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Mais pour eux, c'est pas un problème d'avoir une éolienne dans son paysage.
Michel Lerdevé, sur l'avenir, encore une fois, comment vous représentez le réseau? Alors le problème, c'est que vous êtes filiale d'EDF qui évidemment a d'autres préoccupations que simplement le réseau, préoccupations de production. Mais finalement, pour vous, que l'électricité vienne d'une éolienne de la Sarthe à côté de Juillé ou d'une centrale nucléaire ou la centrale nucléaire de Fessenheim au hasard, ça n'a strictement aucun impact pour vous.
Je crois que pour nos auditeurs, que ce soit RTE ou RDF, c'est des filiales régulées. C'est-à-dire qu'il y a un gendarme au-dessus qui s'appelle la commission de régulation de l'énergie qui veille à ce que l'accès, quel que soit le type d'énergie, se fasse dans des conditions identiques. Et donc on est une société d'autoroute et on ne discrimine pas l'électricité selon la marque du véhicule qui circule. Et donc notre souci, encore une fois, c'est de faire ce travail de non-discrimination au quotidien et d'assurer une qualité dans l'acheminement des électrons sur le réseau à travers une politique dynamique d'investissement, de modernisation. Il y a un thème qu'on n'a pas abordé, et c'est dommage, c'est le numérique, c'est le digital, c'est les smart grids. C'est-à-dire que ces réseaux, c'est pas des infrastructures comme ça qui n'évoluent pas. Il y a énormément de technologies, de sauts technologiques. Faire qu'une éolienne, un panneau photovoltaïque soit relié, ça suppose des automatismes, ça suppose tout un travail de capteurs. Et le réseau, ces dernières années, notamment en moyenne tension, s'est doté de 100 000 capteurs pour pouvoir permettre l'accueil de l'éolien. Aujourd'hui, le défi, c'est, en lien avec le photovoltaïque, de tester. Nous le faisons dans des démonstrateurs à ERDF, les hypothèses de stockage. Le jour où vous aurez de stockage, c'est un pas technologique majeur pour les électriciens. Et donc, on voit que tout ça, c'est vraiment un domaine plein qui fait que tous les sujets autres que vous avez abordés sont des sujets que je laisse peut-être à d'autres experts le soin d'évoquer.
Jean-Édouard Lemasson, est-ce que cette expérience, au bout de 3 ans, maintenant les choses sont installées, vous avez, c'est la routine, j'imagine, c'est quelque chose qui fait partie du paysage pour le coup. Est-ce que ça débouche sur d'autres envies du même type ou d'autres projets?
Je dirais ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est le projet de restaurer le patrimoine.
Alors ça, c'est le pendant. Alors ça, ce qui est extraordinaire, c'est que l'énergie, du coup, là, devient un poste, une ressource.
Voilà, une ressource. Voilà, comme une autre ressource fiscale pourrait être, mais elle nous vient par la production des éoliennes. Je pourrais dire la même chose pour mes collègues des autres communes. Et on l'a fait aussi à l'échelle de la communauté de communes. On a voulu, sur ce projet, aussi être très pédagogique. Donc au pied d'une des éoliennes, on a des panneaux qui mettent en valeur tout le patrimoine local, comment est produite l'énergie éolienne. Quand j'étais beaucoup plus jeune, quand mes enfants étaient petits, on allait beaucoup en montagne et de voir les barrages. Souvent, on avait des panneaux explicatifs. Je m'étais dit que si un jour on avait un projet de ce type-là, on expliquerait aux enfants. C'est important pour eux de savoir... avoir des projets de cette ampleur-là, je pense qu'à l'échelle d'un village, c'est déjà extraordinaire. Donc, ce serait difficile d'avoir quelque chose d'aussi important.
Jérôme Biré, on voit l'enthousiasme de Jean-Édouard Lemasson et de la population de ces communes de la Sarthe. Comment ça se passe avec d'autres régions quand vous la rencontrez? Comment est-ce que c'est facile de les convaincre? Est-ce qu'il y a d'autres projets du même type en France et combien?
Alors, je veux pas dire qu'ils sont tous comme ça, mais fondamentalement, nous faisons des projets de territoire. Que ce soit du solaire, de l'éolien, de l'hydroélectricité, si vous n'associez pas les riverains, éventuellement vos futurs potentiels utilisateurs de proximité, vous avez de fortes chances de ne pas réussir. Donc, Quadran est installé en région, est installé à peu près partout où il travaille, et notre objectif, c'est vraiment de travailler avec les collectivités, de travailler avec les riverains. Sinon, ça n'avance pas. Et aujourd'hui, on alimente 700 000 personnes, demain 1 million, 1,5 million. C'est évident que c'est avec le tissu local. On n'a pas beaucoup parlé du rôle des collectivités, mais c'est vrai que les collectivités sont impliquées aujourd'hui dans les déchets, dans le transport scolaire, dans l'eau. Pourquoi pas dans l'électricité demain? Alors, dans des modalités à inventer, parce qu'il faudra les inventer. Mais on voit bien que ce monde qui évolue sera... bottom-up, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça partira de la base et c'est ça qu'il faut travailler aujourd'hui.
Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour... est-ce qu'il y a un frein que vous ressentez à votre activité? Vous êtes une PME de 200 personnes par rapport à l'époque dont on parlait, 1946 et même après, donc dans les années 60-80 où le parc nucléaire a été construit. C'était l'État, c'était une entreprise nationale qui pilotait ce genre d'infrastructure. Comment vous ressentez aujourd'hui les choses?
Je pense que le monde a quand même beaucoup changé depuis. Donc, on est dans des projets qui sont ces projets de territoire. Donc, c'est pas la peine d'être grand pour faire ce type de projet. Aujourd'hui, on peut les faire localement. Simplification administrative, c'est fondamental. Et ça sera notre débat.
Voilà, ça sera notre débat. Merci de me fournir la chute de celui-ci. Merci aussi à Jérôme Biré, Michel Derdevé, Jean-Édouard Lemasson d'avoir participé à cette émission. Les années qui viendront nous diront si les énergies renouvelables se développent suivant le plan annoncé par la ministre il y a 2 jours. Vous pouvez approfondir notre sujet grâce au lien que vous trouverez sur notre site où vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant 1 an et bien sûr nous faire part de vos réactions et commentaires. Tout c'est possible tout en bas de la page de Science Publique. La semaine prochaine, vendredi 15 avril, nous aborderons le sujet délicat de la santé mentale à l'occasion de l'exposition dont vous avez entendu parler juste avant cette émission. Une exposition qui se dénomme Mental Désordre, qui vient d'ouvrir à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Exposition dont France Culture est partenaire. Et nous débattrons du thème de cette exposition qui est de savoir comment vivre avec ces maladies qui touche une personne sur 4 dans le monde à un moment ou un autre de sa vie. Nous en débattrons avec nos invités, parmi lesquels Virginie Lacombe et Antoine Pellissolo. Science Publique, Dany Journeau, Juliette Delperroux, Marie Dalquier, Michel Alberganti. You have a spirit of grace.